Swing Time 2023. Swing Time, une émission du Hot Club de Limoges, avec aujourd'hui deux présentateurs vedettes, Claude-Alain Christophe, président d'honneur du Hot Club de Limoges, et Jacques Canero, un expert reconnu en jazz, tant à Paris, dans notre capitale, qu'à Limoges, dans la capitale du jazz. Et nous les avons pour trois émissions successives, de quoi attendre tranquillement, dans la joie, la bonne humeur et le swing, les vacances d'été. Eh bien, messieurs, de quoi allez-vous nous parler pendant ces trois futures émissions ?
Eh bien, la série de trois émissions que nous vous présentons est née d'un constat. Les amateurs de jazz savent que, dès l'origine, les artistes de jazz et de blues, parfois aussi de gospel, furent des itinérants, se déplaçant au gré des circonstances ou des contrats, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, et même, très tôt dans l'histoire, d'un continent à l'autre. Ils croisaient ainsi d'autres musiciens et musiciennes, d'autres chanteuses et chanteurs, tous se mêlant dans les clubs, les concerts, les festivals, mais aussi dans les studios d'enregistrement. Et c'est là ce qui a retenu notre attention. En effet, à consulter de près les discographies, il apparaît que nombre de ces sessions témoignent de rencontres improbables, en raison de divers facteurs. C'est cet étonnement que nous souhaitons vous faire partager, et nous consacrerons cette première émission à des enregistrements effectués sur le sol américain.
Certains de nos auditeurs ont déjà reconnu la voix de Jacques Canero, le plus parisien des amateurs de jazz limougeaux, qui a déjà présenté plusieurs sujets dans Swing Time et qui m'a proposé de l'accompagner pour cette série dans laquelle nos enchaînements ne seront pas guidés par la chronologie, mais par l'aspect inattendu des rencontres. Nous commencerons par la réunion rare de quelques grands talents de la Nouvelle-Orléans. Voici, enregistrés pour la seule et unique fois à Chicago en 1929, trois grands musiciens louisianais, Barney Bigard à la clarinette, Jelly Roll Morton au piano et Zootie Singleton à la batterie, nous régalant d'un turtle twist. Barney Bigard y évoque le déplacement chaotique de la tortue, auquel le titre fait référence, tout en faisant preuve d'une parfaite maîtrise instrumentale. Jelly Roll Morton vient ensuite nous régaler d'un savoureux solo de piano, derrière lequel le souple jeu de ballet de Zootie Singleton fait merveille. Barney revient pour la conclusion, et s'il faisait déjà partie de l'orchestre Ellington depuis 2 ans, son jeu conserve l'accent typique de la Nouvelle-Orléans. Thank you.
C'était bien sûr Claude-Alain Christophe, l'un des présentateurs familiers des émissions de Swing FM, qui vous a présenté notre premier titre. S'il n'est nullement surprenant d'entendre trois néo-orléanais se retrouver pour la première fois dans un studio, fut-il à Chicago, pour enregistrer le Turtle Twist que vous venez d'entendre, il est beaucoup plus étonnant qu'il ait fallu entendre le revival des années 40 pour voir le clarinettiste Albert Nicolas et le batteur Baby Dots, tous deux natifs de New Orleans, se rencontrer pour la première fois de leur carrière en 1946. Et cela autour du pianiste Don Ewell. Voici Wolverine Blues, fameuse composition de Gerald Morton, où l'on ne manquera pas d'apprécier la fluidité puis la fougue du jeu d'Albert Nicolas, ainsi que l'extrême variété de l'accompagnement de Baby Dots, particulièrement swingant dans les passages joués sur les woodblocks, où l'on croirait presque entendre un tap dancer comme Bill Robinson. Wolverine Blues.
Français croit que Sidney Bechet est devenu une vedette en remportant un immense succès dans notre pays dans les années 1950. Rien n'est plus faux. Il avait déjà remporté en France un joli succès dans les années 20 en accompagnant Josephine Baker. Et aux États-Unis, Sidney Bechet était une des stars de la musique de jazz. Il n'est donc pas étonnant que la firme Victor lui ait proposé en 1940 de réaliser une série d'enregistrements avec les musiciens de son choix. Et Bechet savait choisir des partenaires qui lui conviennent, comme on va le constater avec les interprétations qui vont suivre. Nous commençons par une rencontre unique avec le grand trompette ellingtonien Rex Stewart. Une rencontre d'autant plus étonnante que Bechet fait aussi appel à un pianiste avec lequel ni lui ni Rex n'avaient encore enregistré, Earl Hines. Et il n'hésite pas à choisir pour compléter la section rythmique deux musiciens originaires comme lui de la Nouvelle-Orléans, le bassiste John Lindsay et le batteur Warren Baby Dots. Nous allons entendre ce superbe quintet dans Stompy Jones. un morceau que l'orchestre Ellington avait enregistré pour la première fois en 1934. Cootie Williams, l'autre trompette vedette du Duke, y avait improvisé un solo que connaissaient tous les musiciens de jazz. Au point que dans la version de Béchet que nous allons écouter, après l'introduction, c'est le solo de Cootie qui fait office d'exposé. Même le solo de piano, qui est ensuite du pur Orleans, commence par une citation de la phrase de Cootie. Stompy Jones est un morceau de 6 mesures avec pont. Durant l'exposé, Sidney Béchet puis Rex Stewart prennent chacun 8 mesures véhémentes, correspondant bien à leur tempérament. Vient ensuite un solo d'Orleans sur 2 chorus, puis après un passage joué à l'unisson par trompette et soprano, Rex entame un épatant mais trop court 4-4 avec Béchette. Après le solo de basse, Baby Dots prend un chorus typiquement Nouvelle-Orléans en utilisant le bord de caisse et les woodblocks. Béchette était très respecté par les jazzmen, plus jeunes que lui, et Rex laisse donc le soprano mener l'ensemble final.
Sidney Béchet profite donc à son tour du revival des années 40 pour reprendre le chemin des studios, ce qui va lui permettre, comme dans le disque précédent, de se confronter à des musiciens fort éloignés du style New Orleans. C'est le cas du trompettiste Charlie Shavers, qui avait certes déjà croisé Béchet derrière les chanteuses Trixie Smith et Cout Grant, mais si fugitivement qu'on ne pouvait guère parler de rencontre. Ici, au contraire, dans ce « I'm coming Virginia » de septembre 1941, Béchet et Shavers, pour la première et ultime fois, conversent comme de vieux partenaires. Pendant les 3 premiers chorus et durant le 5e, tantôt ils passent au premier plan, tantôt ils se renvoient la balle avec énergie. C'est une phase où l'on peut vraiment profiter de l'attaque et du volume des deux musiciens. Au 4e chorus, on ne manquera pas de tendre l'oreille au solo du pianiste Willie Smith, The Lion, emprunt de train, comme toujours inattendu. I'm coming, Virginia.
sait que Sidney Bechet, né en 1897, mort en 1959, passa les 10 dernières années de sa vie en France. Il lui arrivait cependant de retourner aux USA pour de courts séjours. C'est ainsi qu'en août 1953, il se retrouve à New York en studio avec le grand trompette Jonah Jones. Un autre soufflant de classe les accompagne, Jimmy Archer, surnommé le petit géant du trombone, pour sa petite taille et son grand talent. La section rythmique comprend Buddy Reed au piano, Walter Page à la basse et le modeste batteur Jimmy Blowers. Extrait de cette séance, nous écoutons I'm a Ding Dong Daddy, un thème de 16 mesures à la mode vers 1930, année où Louis Armstrong l'enregistra. L'interprétation s'ouvre par une intro que se partagent les trois soufflants, puis une collective dans laquelle on remarque déjà l'influence de Louis Armstrong sur le jeu de Jonah Jones. Après un chorus de piano, le solo de trombone vigoureux mais dans lequel on retrouve la décontraction du musicien de la Nouvelle-Orléans vient justifier le surnom de Jimmy Archer. Jonah Jones rend ensuite hommage à Louis Armstrong en rejouant exactement les chorus improvisés par ce dernier dans sa version du même thème enregistrée 23 ans plus tôt. Mais ici, les quatre chorus du solo de Louis sont scindés pour faire place à une intervention pleine de flammes de Sidney Bechet. Et les deux derniers chorus de l'admirable solo de Satchmo servent à mener la collective finale.
Dans les 160 titres que compte la discographie de Bessie Smith, l'impératrice du blues fut rarement accompagnée par des cornettistes et des trompettistes. Il est difficile de savoir si c'est Fletcher Henderson, l'un de ses pianistes préférés, qui proposa à la chanteuse le soutien de musiciens de son orchestre, mais le fait est qu'à partir de 1924, elle fut, dans diverses séances, accompagnée par Joe Smith et dans quelques-uns, par Louis Armstrong. En revanche, on rencontre seulement deux titres de Bessie où joue Tommy Lanier aux côtés de son chef, et cette rareté a retenu notre attention. Nous entendrons « Dying by the Hour », c'est-à-dire « Je meurs à chaque heure », un blues d'octobre 1927 en tempo lent qui débute et s'achève par une citation de la marche funèbre de Chopin appropriée au désespoir de la femme abandonnée. Tommy Lanier ne prend ici aucun solo, mais son accompagnement continu, tout en expressivité, fait écho aux lamentations de la chanteuse. On repérera notamment la façon sombre et exaspérée dont il pétrit ses breaks au long des quatre chorus que compte l'interprétation. Dying by the Hour.
It's an old story. Every time it's a doggone me. It's an old story. Every time it's a doggone me. But when that thing is on you, you just drift from hand to hand. I'd drink a bottled acid if it wouldn't burn me so. I'd drink a bottled acid if it wouldn't burn me so.
Avec l'interprétation suivante, nous sommes confrontés à une rencontre entre deux mondes qui se fréquentaient peu, celui du jazz proprement dit avec Don Byas et celui du blues avec Big Bill Brunzi. Ce dernier, né dans le Mississippi en 1898, mais installé dès 1920 à Chicago, est considéré comme un des créateurs du blues urbain. En 1945, c'est sous le pseudonyme de Little Sam qu'il participe à cette séance avec Byas. Dans « Why did you do that ?», un blues de 16 mesures, son chant évoque les blues shouters. Byas l'accompagne très sobrement par des riffs, mais retrouve sa verve habituelle dans son beau solo. « Why did you do that ?»
mm-hmm. why'd you do that to me? Yes, why'd you do that to me? You said you was my friend and would be until the end. But now look now, baby, at this shape you got me in. Yes, why'd you do that to me? Yes, why'd you do that to me? I worked for you, baby. I brought you all my dough. Now tell me now, baby, why my key wouldn't fit no more.
Chanteur de blues Big Joe Turner fut naturellement accompagné durant toute sa carrière par divers pianistes spécialisés dans le blues, en particulier Pete Johnson. On sera d'autant plus étonné de découvrir en novembre 1940 une session des cas de 4 titres dans lesquels le pianiste est Willie Smith le Lion, dont le blues, et c'est le moins qu'on puisse dire, n'était pas le domaine de prédilection, même s'il avait à ses tout débuts tourné avec la chanteuse Mamie Smith. Sur Doggin' the Dog, son accompagnement et ses 3 choruses au style si personnel confèrent à la face une légèreté, une souplesse et une fraîcheur inattendue dans le domaine du blues, en contraste avec la puissance de shouter de Big Joe Turner. Doggin' the Dog.
Well, I worked hard, baby, and I brought you on my pay. Yes, I worked hard, baby, and I brought you on my pay. Say you're certainly gonna miss me when I'm gone away. Low down chain, baby, the way you mistreat. made for me. Well, my homie, yeah, baby, ain't compelled to stay. Well, my homie, yeah, babe, I ain't compelled to stay. Well, it's your time now, but it'd be mine some sweet day. Katie's at the station and my mind's made up to go. I'll beat it out with the line. Solid, Bob, solid. We're down now, we're down.
En 1972, Louis Panassier, réalisateur de l'aventure du jazz et fondateur du label Jazz Odyssey, prend l'heureuse initiative de réunir deux grands jazzmen qui n'avaient jamais joué ensemble et avaient pourtant une grande estime l'un pour l'autre. Le pianiste Willie Smith, surnommé le Lion, et le batteur Joe Jones, devenant ici le Tigre. Nous allons les entendre sur un thème composé un demi-siècle plus tôt par le Lion, mais qu'il n'avait jamais enregistré en solo de piano. Keep Your Temper. Soutenu par le jeu de ballet de Joe Jones, aussi souple et régulier qu'inventif, le Lion expose longtemps le thème en l'enregistrant de quelques trouvailles harmoniques jusqu'à ce que sa main gauche se mette à pratiquer un stride plus marqué. Puis, dans la dernière partie du morceau, il aménage quelques interruptions qui permettent au Tigre d'animer le dernier chorus avec des breaks dont il a le secret. Keep your temper.
Après cet intermède léonin, nous allons trouver un autre blues chanteur de talent, cette fois Jimmy Witherspoon. Bien connu pour sa puissance vocale et son énergie communicative au sein des groupements chargés de l'accompagner. On sera surpris de l'entendre ici, pour l'unique fois dans sa carrière, entouré d'un orchestre Nouvelle-Orléans, celui des frères Sidney et Wilbur de Paris. Cette rencontre a été parfois fustigée par la critique qui aperçut le mariage de la carpe et du lapin. Il est permis d'y voir au contraire une alliance originale propice au swing qu'aucun des participants ne semble avoir boudé. Sur le traditionnel Careless Love, Jimmy Witherspoon, dont la carrière ne sait d'ailleurs nullement quand on est dans le blues, est propulsé sur un tempo rapide par une rythmique compacte où brille le batteur Wilbur Kirk et le banjoiste Shep Shepard. Entre les collectifs énergiques de l'ouverture et de la clôture, on entendra les chorus chantés par Witherspoon, alternés avec la trompette fougueuse de Sidney de Paris et la clarinette volubile d'Homer Simeon. Et lors du cinquième chorus de l'interprétation, on guettera la trompette de Sidney de Paris, harcelant le chanteur par des riffs joués dans le chapeau. Une version réjouissante et inattendue d'un grand classique du jazz, Careless Love.
Avec le duo formé par la chanteuse Ethel Waters et le pianiste James P. Johnson, nous abordons un monde musical complètement différent. Née en 1900, Ethel Waters connut à New York un grand succès comme chanteuse dans les années 20 et 30, avant de devenir comédienne. On se souvient entre autres de sa remarquable prestation d'actrice dans le film Cabin in the Sky. Ethel Waters a une voix claire au registre très étendu, et comme le fait remarquer Hugues Panassier dans son dictionnaire du jazz, d'une justesse miraculeuse dans tous les registres. Sa grande sensibilité, jointe à ses qualités naturelles exceptionnelles, lui permet d'exprimer ses émotions de façon très personnelle et bien différente de ses contemporaines chanteuses de blues. Écoutons-la nous détailler en 1929 la vie de cette Lonesome Swallow, une hirondelle solitaire, qui lui permet de mettre en valeur toutes les facettes de son talent. Derrière elle, on appréciera l'accompagnement ferme, mais lui aussi tout en nuances, de James P. Johnson.
Up in the treetop high, poor little lonesome swallow, I hear your lonely sigh. You miss your nest where life is best, and so do I. Lonesome swallow, lonesome swallow, I know you're blue. Lonesome swallow, lonesome swallow, I'm lonesome too. If you'll spread your wings and fly, you can lead me back to my home.
Il est possible que certains auditeurs de Swing FM n'aient jamais entendu parler de la chanteuse Mae Barnes, disparue en 1996. Il est vrai que cette artiste fut surtout connue aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale pour sa participation à des spectacles musicaux comme chanteuse et tap danseuse. Son talent fut même salué par Bill Robinson, jusqu'à ce qu'un grave accident l'eût contraint d'abandonner définitivement la danse pour le chant et la participation à des shows télévisés. Sa discographie est des plus réduites. Mais elle fut choisie en 1958 par la firme Vanguard pour une rencontre unique avec, excusez du peu, Buck Clayton à la trompette, Ray Tunier au piano, Aaron Bell à la basse et Joe Jones à la batterie. La chanteuse se plaît manifestement dans cette session où, sur un tempo rapide, Buck Clayton prend avec la sourdine deux chorus superbement ciselés et où Joe Jones tap dance littéralement avec les brushes. Une phase tout pour le swing. It's wonderful.
It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I long to see. You've made my life so glamorous, you can't blame me for feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. Thank you.
Pour les Américains, le gospel est la musique de Dieu, quelques-uns voient dans le blues la musique du diable. Ce qui n'empêche pas que les pratiquants du blues et ceux du gospel aient des modes d'expression très proches. Nous allons écouter Mary Knight, une chanteuse de gospel un peu oubliée aujourd'hui, mais qui s'était rendue célèbre en formant avec Sister Rosetta Tharpe un duo qui eut pendant une dizaine d'années un succès considérable en chantant dans des stades pour des dizaines de milliers de personnes. Après leur séparation, Mary Knight donna un bon exemple de cette proximité musicale du gospel et du blues en se faisant accompagner dans les années 50 par un groupe de musiciens issus du monde du blues. C'est ainsi que dans The Storm Is Passing Over, que nous allons écouter, elle partage la vedette avec le guitariste Mickey Baker, qui n'oublie le blues ni dans son accompagnement plein de flammes, ni dans son superbe solo très inspiré. The Storm Is Passing Over.
Des solistes de chants religieux, les groupes de gospel se produisirent rarement avec des musiciens de jazz, se suffisant à eux-mêmes par leur répertoire et leur nombre de participants. Ce fut le cas des Clara Ward Gospel Singers, qui bénéficièrent d'une forte réputation au point de prendre parfois part à des tournées mondiales. On s'étonnera d'autant plus de les voir en mars 1963 enregistrer un unique LP avec le groupe des Dukes of Dixieland, des frères Assunto, qui comptait notamment une belle rythmique animée par le batteur Buddy Drodin. Dans le classique « Just a Closer Walk with Thee », si souvent interprété lors des enterrements à la Nouvelle-Orléans, l'orchestre expose le thème soutenu par les six chanteuses. Puis, Clara Ward passe au premier plan et s'impose avec une énergie croissante et un superbe vibrato jusqu'à la fin de l'interprétation. Le dernier chorus atteint même un paroxysme de swing lorsque la collective de l'orchestre vient doubler le riff de la chorale. Just a closer walk with thee.
Yeah. thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied just as long as I walk. Just let me walk close to thee. When my feeble life is o'er, time for me won't be no more.
En 1950, le chanteur et saxophoniste Louis Jordan était sous contrat avec la firme Decca et en remportait un vif succès avec son célèbre Timpani Five. Comme Louis Armstrong était une autre vedette de Decca, quelqu'un eut l'idée de leur faire enregistrer ensemble deux faces d'un 78 tours. Nous écoutons l'une de ces faces, You Rascal You, un ancien succès de Satchmo, dans lequel il partage cette fois la vedette avec le Timpani Five. Mais si Louis Jordan lui donne parfaitement la réplique, il ne peut rivaliser avec la gouaille de l'autre Louis. En effet, Armstrong ne cesse de jouer avec ses paroles pour apporter aux parties chantées un maximum de vitalité et de swing. Sur le plan instrumental, l'alto de Louis Jordan se montre également assez discret, alors que la trompette de Louis Armstrong est flamboyante. On notera vers la fin de l'interprétation sa note tenue très vibrée, dégageant un swing phénoménal.
I'll be glad when you're dead, you rascal you. I'll be glad when you're dead, you rascal you. You know you've done me wrong. You stole my wife and gone. I'll be glad when you're dead, you rascal you.
Talk about it, Jen. Talk about it.
I'm gonna kill you just for fun, you rascal you. I'm gonna kill you just for fun, you rascal you. I'm gonna kill you just for fun. The bugs can have you when I'm done. I'll be glad when you're dead, you rascal you.
Ah, let me talk about him a while. You asked my wife for some cabbage, you dog. I said you asked my wife for some cabbage, you old rascal. You asked my wife for some cabbage, and you ate just like a savage, you old rascal. Now there ain't no use to you running, you old rascal, you.
Run, Satch!
There ain't no use to him running, you rascal, you.
Catch up with him, catch up with him.
Ain't no use to you to run, cause I done went to the pawn shop and got my gun.
You messed with my wife, you rascal, you. Yes, you messed with my wife, you
rascal you. You've messed with my wife, now I'm gonna take your life. I'll be glad when you're dead, you rascal you.
Let me talk about him again. Now, I wonder what you got, do you rascal you? I said, I wonder what you got, you rascal you. I said, I wonder what you got that makes my wife think you so hot. Old dog.
Se rencontrer Louis Armstrong et Duke Ellington a longtemps fait partie des rêves des amateurs de jazz. Il fallut attendre la fameuse session new-yorkaise des 3 et 4 avril 1961 pour que le rêve devienne réalité. Rencontre d'autant plus attrayante que dans le thème que nous avons choisi, Azilia, les deux musiciens sont seuls avec le bassiste Mortebert et le batteur Danny Barcelona qu'on entend à peine. On sait que ce thème de 32 mesures sur tempo lent avait été composé 20 ans plus tôt par le double qui le destinait à Armstrong. La part belle est donc naturellement confiée au trompettiste qui joue le premier chorus d'une façon recueillie, puis chante le second avec une extrême sensibilité, les deux musiciens se partageant un dernier demi-chorus. Il s'agit là d'une plage délicate, unique de surcroît, dans la discographie des deux musiciens. Azilia.
Such a fine spring day down Louisiana way, with fragrance divine, oh baby, and such magnificent regalia, oh so fine, azalea. Oh, what a lovely sight, in red and pink and white,
can't help but believe that nothing evil can assail you so naive. Azalea, you at ease on the knees of the moss-covered trees whose tops met to make on high ceiling in the church-like pump of a cypress swamp. I've yet to get that same strange feeling. I've got to go back there and find that blossom fair I'll always dream of. 'Cause with you, who could be a failure? My first love, Azalea. To go back there and find that blossom fair I always dream of. 'Cause with you, who could be a failure? My first love, my very first love, Bada Babuses, Azalea.
En 1958, Lou Armstrong, que nous venons d'entendre et qui demeure à ce jour le plus grand soliste de l'histoire du jazz, accepte une requête étonnante de la part d'un confrère. En effet, il consent à ce que les membres de son All-Stars accompagnent pour une soirée le trompette Teddy Buckner. Celui-ci est un grand admirateur de Louis, mais bien que son jeu soit assez puissant comme on va le constater, il ne cherche pas à imiter le grand Satchmo, qui est d'ailleurs inimitable. Nous écoutons donc Teddy Buckner dans le morceau que Louis jouait généralement au début de ses concerts, Indiana. Il est accompagné par tous les partenaires habituels d'Armstrong, Edmund Hall à la clarinette, Tommy Young au trombone, Billy Kyle au piano, Mort Herbert à la basse et Danny Barcelona à la batterie. Indiana. Thank you. C'est avec cette interprétation que se termine cette première émission consacrée à des rencontres improbables et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour en découvrir d'autres tout aussi rares et surprenantes.
Nous avons donc bénéficié d'un Swing Times tout spécialement confectionné par Claude-Alain Christophe et Jacques Canero. Merci messieurs pour ce Swing Time exceptionnel et nous attendons la semaine prochaine avec impatience pour entendre et apprécier la suite de cette triple émission. Donc merci et à bientôt à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.